Créer des réserves privées en achetant des terrains est le seul moyen de sauver ces orang-outans. Comme cette femelle que je vous présente. Je l'ai baptisée Doulan. Elle a fui la déforestation causée par les compagnies d'huile de palme et elle a trouvé refuge dans cette forêt.
Ce matin, on vous raconte une bataille de la terre menée à l'autre bout du monde. Une bataille faite de cadastres, de mètres carrés, de gros sous et de médias, oui de médias, l'alpha et l'oméga d'une autre bataille, celle de l'opinion. Aurélien Brûlé, la quarantaine entamée, se fait maintenant appeler Chani. Il vit à Bornéo et consacre sa vie à la préservation, entre autres, des gibbons, luttant jour et nuit contre la déforestation qui broie l'habitat des grands singes. Ce faisant, il s'est forgé quelques convictions. Son dernier petit livre s'apparente à un manuel de guérilla médiatique. Il pourfend le pessimisme des ONG et des médias qui, main dans la main, bouchent l'horizon des combats écologistes. Il y prône aussi l'utilisation de la vidéo et même de la radio pour faire basculer les populations locales dans son camp.
L'instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Et bonjour à vous Chani, soyez le bienvenu.
Merci.
Chani qui est français et qui a filé direct en Indonésie à peine le bac en poche, c'était il y a 25 ans. Maintenant vous êtes marié là-bas, père de très nombreux enfants.
Non, j'en ai que deux, ça va.
Et surtout à la tête de ces, bon, de ces deux grands emplacements à Bornéo et à Sumatra. Voilà, de ces réserves où on offre un refuge aux singes et pas seulement aux singes. Hâte d'être demain pour continuer à sauver. C'est paru aux presses du Midi, c'est ce petit livre dont on va parler ensemble, Chani. Comment va Doulan ? On entendait parler de Doulan.
La forêt Doulan, eh bien, on est arrivé à sécuriser la moitié déjà de cette forêt en seulement 2 ans et demi.
Ouais.
Donc, ça se profile bien. Le combat doit continuer, mais pour l'instant, ça se profile bien.
Voilà, alors ceux qui ne connaissent pas votre association, qui s'appelle Kalawet, c'est comme ça qu'on prononce,
Kalawet,
voilà, qui emploie aujourd'hui presque une centaine de personnes.
Ouais, 82 employés aujourd'hui.
82 employés qui soignent les animaux. Évidemment, il y a les centres de soins. Mais il faut que vous racontiez cette bataille cadastrale parce qu'elle est au cœur de votre combat. Et ensuite, on va parler de la manière dont vous médiatisez ce combat.
Donc, mon premier combat, c'était donc de venir en aide à tous ces animaux victimes de la déforestation et des trafics. Mais très vite est née une frustration de voir ces animaux en cage. Beaucoup ne peuvent pas être lâchés. C'est compliqué. Donc, les sauver au bon moment, c'est quand ils sont encore dans les arbres, en fait. Et donc créer des réserves. Et
en fait, faire qu'il reste des arbres. Tout
exactement. Et à Bornéo, vous savez, le mythe de la forêt indonésienne, comme l'Amazonie, tout ça, ça correspond pas à la réalité de terrain. La réalité de terrain, on a des forêts et certaines peuvent être sauvées justement quand on va avoir les outils qu'on a à disposition. Et moi, ma technique, c'est de vraiment utiliser les outils des acteurs de la déforestation pour protéger la forêt. Comment eux font-ils ? Ben, ils s'assoient aussi sur le cadastre, le plan d'occupation des sols. Il y a des endroits où effectivement, on peut acheter des terrains à des villageois. Il y a d'autres endroits, c'est pas possible du tout, donc c'est même pas la peine de perdre l'énergie là-bas. Et dans ces zones-là, on va travailler avec les populations locales, avoir des protocoles d'accord, acheter ces terrains, créer des réserves privées.
Ça, c'est une contre-offre, en fait, pour occuper la terre.
Exactement, parce qu'encore une fois, on a des outils pour agir d'une manière extrêmement pragmatique dans ces cas-là et sauver de manière immédiate, dès qu'on fait une transaction, cette parcelle de forêt est sauvée et protégée. Ensuite, bien sûr, c'est la première pierre, l'achat et la sécurisation de ces terres. Ensuite, derrière, il y a des patrouilles, il y a toute une logistique qui est mise en place sur le long terme.
Je rappelle qu'en face de vous, vous avez des compagnies extrêmement puissantes et extrêmement riches qui produisent de l'huile de palme.
Oui, mais si on va à l'échelle locale, et aujourd'hui, moi, c'est un peu mon cheval de bataille de dire que cette écologie ou la conservation, il faut aller à l'échelle du paysage, à l'échelle locale, où on peut identifier telle et telle compagnie. La compagnie va aussi nous regarder et voir qu'on a le soutien des populations locales, par exemple, et c'est comme ça qu'on arrive à remporter ces victoires et à sauver des centaines voire des milliers d'hectares.
Alors, le soutien des populations locales, justement, Chani, ça fait 20 ans que vous y travaillez, et que vous y travaillez dans les langues locales, que vous
bien
y travaillez à travers la presse, que vous y travaillez à travers la radio. Racontez-nous cette radio que vous avez créée.
La radio, maintenant, elle a 19 ans. Le but, c'est de dire comment le Dayak, donc c'est un terme générique pour toutes les ethnies de Bornéo, qui n'est pas forcément intéressé par l'environnement, gouvernement aujourd'hui, comment faire en sorte que lui s'intéresse ou en tout cas ait notre message. Ben, c'est un peu la même chose qu'en France, c'est-à-dire qu'on va passer par du divertissement, on va passer par une radio qui, son but premier est de faire de l'audience, et quelle que soit l'émission, quelle que soit l'heure de diffusion, on va avoir ces messages un peu chocs, la hotline aussi s'ils sont témoins d'animaux victimes de problèmes, et c'est comme ça que par des moyens
dérivés... C'est-à-dire il y a de la musique, il y a de la libre musique, antenne...
Il y a de la libre antenne, la nuit les gens vont se confier, il y a des émissions de canulars, c'est vraiment une radio faite pour les jeunes.
C'est pas une radio thématique, c'est pas
non,
une radio...
Non, ça marcherait pas, on tournerait en vase clos. Moi je dis souvent que quelqu'un qui regarde un documentaire animalier sur France 5 à 23h, c'est quelqu'un qui est déjà sensibilisé, il a fait la démarche d'aller voir ce documentaire. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut aller sur TF1 dans une émission de télé-réalité peut-être et mettre au milieu une minute sur sur l'environnement. On touchera des gens qui a priori n'allaient pas chercher ce message-là.
Et le fait d'avoir ouvert l'antenne de Radio Calaouette, de l'avoir ouverte aux auditeurs, d'en avoir fait ce qu'on appelle la libre antenne dans notre jargon, ça a permis justement à la population locale de s'approprier ce média.
De s'approprier ce média, de nous soutenir. Et aussi, aujourd'hui, si on existe toujours d'ailleurs après 24 ans, c'est justement parce qu'il y a tous ces auditeurs derrière qui aujourd'hui changent de profil parce que les réseaux sociaux, ils deviennent des gens qui nous suivent sur YouTube, tout ça. Mais j'ai très vite compris que l'illuminé de français tout seul dans la forêt n'allait pas faire la différence. C'est les médias, c'est la voix qui est relayée de notre combat par notre propre média.
Et alors, quand il y a coupure d'électricité,
la radio s'arrête. On attend que ça reprenne.
C'est ça. Justement, avec l'arrivée des radios... Des réseaux sociaux. Comme vous dites, vous avez une nouvelle génération à convaincre. Elle aussi, elle a ses outils. Face à vous, vous avez aussi des très gros relais d'influence, que ce soit au niveau gouvernemental, que les compagnies que vous avez face à vous. Là, on va vous écouter.
Sachinta dan gadis daya.
Ça, c'est une vidéo YouTube.
Ketemu lagi dalam bahasa Indonesia. Saya mau jawab sebagian dari pertanyaan kalian.
Wah, les gens vont rien comprendre.
Non, on va leur expliquer. En fait, c'est assez étonnant, on s'y attendait pas. C'est-à-dire que dans ces vidéos, par exemple, là, vous racontez la rencontre avec votre épouse.
Voilà. Il faut absolument comprendre quand on a un message sur l'environnement. Ça fait bizarre de m'entendre parler en indonésien en même temps, là. Parce que je vais me mettre à parler indonésien et du coup, vous n'allez plus rien comprendre aussi. Mais si on met que des vidéos, par exemple, sur la nature et les gibbons. Encore une fois, on va tourner en vase clos. Il faut absolument attirer des gens sur la chaîne qui vont être attirés par autre chose.
Et c'est vrai que ceci dit, la nature et les gibbons, Chani, font aussi partie des choses qui peuvent cartonner sur Instagram. C'est-à-dire que l'arrivée des réseaux sociaux vous ont quand même offert des supports d'images.
Oui, mais regardez bien ce qui cartonne sur Instagram avec les animaux. C'est souvent d'ailleurs ce quoi on lutte. C'est beaucoup de gens qui vont avoir un petit gibbon chez eux. Mettez une photo malheureusement sur Instagram et ça va complètement desservir notre cause. Donc arriver avec un message nuancé, réfléchis pourquoi on peut pas avoir un gibbon comme ça sur Instagram. C'est notre pire ennemi pour beaucoup d'espèces, Instagram.
C'est vrai.
Parce que les gens, justement, vont chercher à faire des selfies, un vrai business autour de ça. Instagram est vraiment un souci. Donc, ce que je veux dire, c'est que pour attirer des gens sur la chaîne YouTube et des Indonésiens, ils se posent la question du blanc qui parle couramment indonésien, qui a pas d'accent. Et c'est ça aussi qu'on met en valeur. Je me suis marié avec une Dayak, ça fait 20 ans qu'on est marié. Donc, ils se posent ces questions-là et c'est ces vidéos-là qui marchent très très bien, et donc du coup qui fait grandir la chaîne, et toutes les autres vidéos qui reflètent et qui illustrent notre combat au quotidien sont aussi visionnées, et là ça prend de l'ampleur.
Donc il faut vous jouez la carte de l'intimité, de la proximité.
On ne se refuse rien. Et moi, j'ai la chance de ne pas avoir été formaté. Comme vous l'avez dit, je suis parti à 18 ans en Indonésie. Je me refuse rien dans la communication. Exactement.
Ouais.
Rien dans mes démarches de conservation qu'on met en lumière dans nos médias, que ce soit le pragmatisme par l'achat des terres, que ce soit... il faut être efficace, point barre. Donc, il n'y a pas d'autre mot d'ordre.
Alors, il y a aussi un combat qui se joue au niveau de la presse locale. Parce que la presse locale est encore influente. Elle est encore très bien implantée en Indonésie. Et là, évidemment, c'est un camp contre un autre pour faire basculer l'opinion publique d'un côté et contre l'autre.
Oui, à la différence que l'opinion publique aujourd'hui est complètement confrontée aux problématiques environnementales. Et c'est la donne qui est en train de changer à ce niveau-là. C'est
vraiment, en 20 ans
vraiment, mais malheureusement, on a dû en arriver là, c'est-à-dire que les populations locales sont les premières victimes de la déforestation, inondation. L'année dernière, il y a eu 1,5 mètre d'eau dans un village pendant un mois. Et le lien entre la forêt qui est coupée, réchauffement climatique et les inondations et leur qualité de vie qui est en train
Aujourd'hui, tout le monde le fait.
Exactement. Et il n'y a pas besoin d'être allé à l'école pour le faire. Et donc, du coup, nous, acteurs de terrain, on est galvanisés par ce soutien-là, qui peut faire un petit peu peur aussi aux autorités, parce que on a de plus en plus de poids, parce qu'on est soutenus.
Mais les autorités, qui passent aussi des deals avec les grandes compagnies.
Mais évidemment, évidemment. Et c'est pour ça qu'au niveau global, évidemment, il y a, et puis l'Indonésie, il y a une autonomie des provinces. Donc vous avez Jakarta, évidemment, qui a misé sur l'huile de palme, mais vous avez les autorités provinciales qui, au niveau local, et moi, je défends vraiment les actions locales parce qu'il y a que ça qui est concret. Et bien, sur place, nous, on remporte aussi des batailles parce que ça concerne certes les animaux, certes la forêt, mais ça concerne aussi,
la vie quotidienne
des gens, leur qualité de vie à court terme, les ruisseaux qui vont être souillés si jamais c'est une compagnie d'huile de palme qui est là, les gens ne vont plus pouvoir pêcher. Et donc, on est extrêmement soutenu sur le terrain.
Alors, sujet qui fait grand débat depuis 30 ans, depuis 40 ans, mais particulièrement ces dernières années. Quel type de message faut-il diffuser dans les médias? Faut-il marteler dans les médias pour sensibiliser l'opinion? Faut-il faire peur? Faut-il annoncer la fin du monde? Ou au contraire, faut-il donner de l'espoir? Je vous fais écouter un petit extrait de Don't Look Up, qui a évidemment poussé le curseur très très loin.
La comète mesure entre 6 et 9 kilomètres de large, alors elle...
C'est gros.
Elle endommagera toute notre planète, pas qu'une seule maison.
La planète entière, alors. Et quand ça arrivera, est-ce qu'elle pourrait percuter une maison en particulier qui est sur la côte du New Jersey, celle de mon ex-femme? Et ça m'arrangerait.
Qu'est-ce que vous racontez, vous et Shelley? Vous vous entendez à merveille, ça suffit, oui.
Écoutez, pour être franc...
Ça suffit
d'accord,
maintenant,
mais pour
sinon
être franc, j'ai entièrement payé cette maison. Alors je trouve que c'est quand même...
Désolée, mais excusez-moi. Vous trouvez qu'on n'a pas été assez clair?
Voilà, deux scientifiques invités sur un plateau de télévision et on ne veut pas les entendre. Et plus ils poussent le curseur et plus ils gueulent et plus ils font peur et moins les journalistes en face veulent les entendre. D'une certaine manière, c'est aussi ce que vous dénoncez dans votre petit livre, Chani, qui s'appelle « Hâte d'être demain » et qui paraît aux presses du midi. Vous vous dites le pessimisme est totalement stérile.
Ben, c'est ça, c'est qu'au moment où on arrive, où les scientifiques arrivent avec un message extrêmement important, ils ne sont plus entendus et il faut aussi se poser la question de pourquoi. Donc avant de parler de la forme du message, il faut aussi se poser la question qui a délivré ce message pendant les dernières décennies. Et c'est pas les acteurs de terrain justement. C'est que moi je critique beaucoup dans ce livre les grandes ONG par rapport à la méthode qu'elles ont de communiquer.
WWF
entre autres,
prend très cher.
Mais exactement, c'est que quand elles font une campagne pour lever ou pour mettre le doigt sur une problématique, mais c'est aussi pour lever des fonds, elles font appel à qui? Elles font appel à des agences de com. Les agences de com, elles vont pas avoir notre démarche justement de terrain ou cette vision du terrain. Elles veulent des résultats. Et la manière la plus classique et qu'ils ont utilisée pendant ces dernières décennies, c'est de faire peur pour ensuite taper au porte-monnaie. Et moi, on m'a dit que les orang-outans disparaîtraient avant l'an 2000. On m'a dit qu'ils disparaîtraient avant 2010. On m'a dit qu'ils disparaîtraient avant 2020. Ils sont toujours là. Certes, la situation, je ne nie absolument pas les problématiques environnementales. Simplement, la communication autour d'elles, la parole a jamais été donnée ou très peu aux gens de terrain qui agissent réellement. C'est-à-dire de manière pragmatique pour sauver, pas simplement pour théoriser. Aujourd'hui, on a d'innombrables ONG, d'innombrables interlocuteurs qui vont nous parler d'environnement, quand on parle de biodiversité notamment, mais ce sont des gens qui théorisent. Alors qu'aujourd'hui, à côté de ce travail-là, où justement faire pression sur les États, bien sûr que c'est des grandes décisions qui feront qu'on aura notre salut ou pas face au réchauffement climatique, etc. Mais à côté de ça, on a cruellement besoin d'initiatives concrètes, en parallèle, pour avoir des effets immédiats. Et dans beaucoup de cas, on a déjà les outils de la législation locale de chaque pays. Il faut arrêter de maintenir le fantasme, comme je le disais tout à l'heure, de la forêt amazonienne, la forêt indonésienne, ça ne veut rien dire. Il faut à l'échelle de la commune, l'échelle de la province.
Je vous arrête un instant. La forêt amazonienne, parce que voilà un hit médiatique.
Exactement.
Alors, voilà. Et quel est le problème de la forêt amazonienne telle qu'elle est présentée dans les médias en général?
Mais c'est beaucoup plus complexe.
Notamment au moment où elle brûle.
Alors, notamment, d'abord, une forêt, même avec des grands El Niño et des très grandes sécheresses, une forêt qui n'a jamais été touchée par l'homme va très difficilement brûler. À chaque fois, il y a toujours eu une première étape de détérioration, comme on l'a en Indonésie dans les tourbières où c'est irrigué, etc. Mais l'Amazonie, ça se répand sur plusieurs pays. Il y a plusieurs forêts, plusieurs types de forêts, plusieurs écosystèmes. Et encore une fois, c'est pas une forêt avec un point d'interrogation. Il y a un plan d'occupation des sols, il y a un cadastre, il y a une méthode d'exploitation de ces forêts. Bonne, pas bonne. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a que quand on va vous parler...
C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est qu'on a fabriqué une espèce de gros cliché médiatique de
la
forêt amazonienne.
Mais c'est ça, parce que bling bling,
et qu'à l'intérieur, c'est un fourre-tout, et à l'intérieur, il y a mille problématiques
différentes. Il y a Jungle Keeper, qui est une organisation au Pérou, qui travaille sur la forêt amazonienne du Pérou, sur une zone bien précise, ont obtenu une concession, ils la protègent. Là, c'est crédible. Donc, si on vous parle de la forêt amazonienne, vous pouvez avoir des doutes. Par contre, si on vient encore vers vous avec un nom de lieu, un nom de forêt, un nom de village, de province, là, ça commence à devenir crédible. Et malheureusement, comme je le dis dans le livre, et c'est pour ça que j'attaque assez virulemment le WWF, parce que pendant toutes ces décennies, décennies, il y a de l'argent qui a été collecté. Il y a beaucoup d'études qui ont été faites, mais une étude... Alors, encore une fois, la science est extrêmement importante. On a besoin de ces données, mais remplir un fichier Excel pour collecter des données pour savoir combien on a perdu d'orang-outans, par exemple, tous les ans, c'est bien. Mais à côté de ça, il faut qu'il y ait des actions. Et moi, je vois beaucoup de gens qui disent faire de la conservation, mais qui font des études, notamment sur la biodiversité, sur l'état de la biodiversité. Et au final, on finit par documenter l'extinction des espèces sans avoir rien fait. Donc, à un moment donné, non, c'est pas de la conservation. À un moment donné, il faut arrêter les tronçonneuses, arrêter les fusils. Et pour ça, il faut se retrousser les manches. Et quelqu'un comme moi, sans diplôme, si on agit de manière pragmatique, on y arrive. Si on a identifié la problématique, et on arrive avec une solution.
Et vous vous dites, en plus, on a beaucoup de bonnes nouvelles à annoncer.
Mais évidemment, alors ça, ça m'énerve encore plus, parce qu'on se prive.
Énervez-vous,
Oui, on se prive de toutes ces bonnes nouvelles, même à l'échelle de la France. À l'échelle de la France, vous avez aujourd'hui le gypaète barbu, par exemple, qui commence à se. Le vautour, qui commence à se reproduire dans le Vercors. Non, peut-être que nos auditeurs ne connaissent pas forcément.
Moi non plus.
Il se reproduit maintenant dans le Vercors après 150 ans d'absence. Vous voyez, enfin, vous avez les ours des Pyrénées, mais malgré toutes les problématiques que ça.
Et les tigres sont de retour chez vous.
Et les tigres sont de retour dans notre réserve. C'est la résilience de la nature. On a simplement commencé à protéger depuis 2011 dans notre réserve à Sumatra. Les gens nous parlaient du tigre comme une légende. 2019, on a les premiers tigres qui reviennent simplement parce qu'on a protégé la zone. On sous-estime aussi la résilience de la nature. Dernier exemple, la panthère des neiges. Il y a eu un formidable film au cinéma l'année dernière. On retient que c'est un animal menacé. Et c'est vrai. Mais la bonne nouvelle, c'est aussi que la population a doublé ces 10 dernières années. Et on a comme ça une multitude de bonnes nouvelles. Le gorille de montagne, quand vient de fausser les étudier, il y en avait 300 et quelques. Aujourd'hui, on a dépassé la barre des 1000 individus. Au Portugal, 70 naissances du lynx ibérique, rien qu'en 2021. Mmh. Et j'ai une liste très très longue comme ça. Mmh. Et on se prive de ces bonnes nouvelles. Et surtout, on prive les jeunes qui voudraient s'engager et qui ont des animaux plein les yeux. Et on les prive de ces bonnes nouvelles, on les décourage. Pire encore, on leur vole leur espoir. Alors qu'on n'a jamais eu autant besoin d'eux sur le terrain pour agir. Et c'est ça qui me révolte.
Et en même temps, quand vous étiez gamin, Chani, on a presque le même âge, je suis un petit peu plus âgée que vous, mais vous vous souvenez d'Ushuaïa, vous vous souvenez Nicolas Hulot. En réalité, c'était les premières manières de médiatiser le combat écologiste à la télévision, donc médias de masse, grand public, etc. Et l'idée de Nicolas Hulot, c'était de fabriquer des cartes postales extraordinaires qui donnaient envie de s'émouvoir et d'aimer profondément la planète et la nature en se disant, ça suffira à mobiliser et à protéger la Terre. Ça a été un échec.
Ça a été un échec parce que c'est qu'une facette du problème, enfin, ou de la médiatisation. À côté de ça, il fallait un message. Et déjà à l'époque, les grandes ONG avaient un message très noirci de la déforestation, justement, quand ils parlaient de l'Amazonie, etc.
Mais ça a été nécessaire et elles ont mis tellement d'années à réussir à se faire entendre. Tellement d'années.
Elles se font entendre.
À faire comprendre la gravité de la situation.
Ok, et le résultat sur place aujourd'hui, le WWF qui nous parle, toutes les grandes ONG sont en Indonésie parce que c'est un hotspot de la biodiversité, certainement un des hotspots les plus malmenés aujourd'hui. Où sont-elles ? Sur le terrain, où sont-elles à part les études ? Pardon, mais les seuls qui sur le terrain avec nous travaillons concrètement pour sauver de la forêt sont les organisations qui s'occupent des orang-outans, qui ont aussi des partenariats avec le gouvernement. Mais ce sont pas elles. Elles ont toutes leurs bureaux à Jakarta, mais pardon, elles font sauvons l'orang-outan, sauvons le rhinocéros de Sumatra. Mais concrètement, on a des outils. Il y a pas besoin de théoriser. Il y a certains outils. Le cadastre, encore une fois, dans certaines zones, nous permettent de mettre la main simplement de travailler avec le village.
Et alors dans cette bascule, enfin dans cette balance très difficile à trouver, cette équipe très difficile à trouver entre montrant la beauté de la nature, montrant l'espoir qu'il y a justement dans cette nature pérenne.
Montrer les initiatives qui marchent.
Et montrer les initiatives et alerter sur les dangers et alerter sur la gravité de la situation. Vous trouvez que les anglo-saxons, par exemple, ont une approche différente, par exemple, des médias français ?
Ben, les anglo-saxons pouvaient avoir des docu ou des émissions télé qui... Par comme en France dénonce les problématiques, mais à côté de ça, vous avez toujours des documentaires à la Ushuaïa qui montrent la beauté, qui font rêver. Il y a encore énormément de choses à sauver qui existent toujours, qui sont là, qui sont belles. Et donc, c'est comme vous le disiez, c'est une balance entre les deux.
Ouais,
mais
ça.
On peut pas se priver parce que c'est mentir à un moment donné quand on se prive des bonnes nouvelles, c'est mentir quand on ne parle que du problème du loup. Alors que, en soi, un grand prédateur qui revient en France, il n'est pas revenu parce qu'on lui a ouvert les frontières, il est revenu parce que l'écosystème le permet. Et c'est une espèce qui, si elle revient, ça veut dire que tout en bas aussi, c'est bon.
Vous l'avez compris. Chani, passionné, mais alors passionné, comme au premier jour de ses 18 ans quand il a filé en Indonésie. Merci beaucoup d'avoir
Merci
été mon invité ce matin. Vous êtes de passage en France. Hâte d'être à demain pour continuer à sauver. C'est sorti aux presses du midi et vous repartez à Bornéo d'ici quelques jours.